jusqu'au 5 novembre, le Santon est roi à Gréoux-les-Bains.
Le centre de congrès L'Étoile accueille la 23e édition de la foire au Santon de Gréoux. 18 artisans et maîtres santonniers y exposent et vendent leurs créations, avec au programme de cette semaine diverses animations, démonstrations, ateliers de fabrication ou causeries donnent corps à cette manifestation qui est bien plus qu'un simple marché. En vous invitant à visiter cette foire, l'entrée est libre tous les jours de 14h30 à 18h30 jusqu'au 5 novembre, je vous propose d'écouter un collectionneur et conférencier passionnant, musicien féru de tradition provençale mais aussi curieux des sons du monde. André Gabriel expose à Gréoux quelques-unes de ses pièces magnifiques, regroupées par thème, ses santons traditionnels et figurines artisanales plus modernes invitent au voyage à travers les temps. Écoutons André Gabriel, commissaire de l'exposition grisélienne. Nous parlons santons et musique, ça tombe bien, c'est le titre de son exposition. Interview réalisée pendant l'animation du groupe d'Avignon, l'Uriban de Provenzo.
Dans une période où il y a une grande de christianisation, les marchés sont en mer, en fournissent, et les aussi un musicien et un collectionneur invétéré. Votre collection est assez extraordinaire. Vous avez combien d'instruments?
Pour moi, je faisais très bien.
Quel instrument?
Instrument traditionnel du monde. Instrument traditionnel du monde. C'est-à-dire du monde entier, mais traditionnel. Pas forcément du monde, mais c'est comme ça pour ce genre-là, parce qu'on a plein de gens. Mais c'est tout ce qui concerne les instruments dans la pratique, évidemment, et rural, je dirais traditionnel, mais presque artisanal, voilà, c'est-à-dire des birouzos, des tambours sculptés, des choses comme ça. Sur l'Afrique, l'Indonésie, la Polynésie, bien entendu, un peu l'Amérique latine, alors quelques instruments aussi sur l'archéologie, la colombienne essentiellement, et puis romaine, bien entendu, avec des cloches archéologiques, etc. Mais en fait, ce que du coup m'intéresse, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de bande.
Ils sont tous en état de marche, vous les faites pas fonctionner.
Pour moi, s'il y a pris un commande, il y en a qui ne sont pas dans un état, ça ne vaut pas forcément le coup de les restaurer. Parce que finalement, on a très bien en neuf. Par contre, c'est intéressant de voir comment on peut fabriquer un instrument et encore dans une tradition populaire, 50 ans, 100 ans, dans un village, avec des moyens de bord, partout, au milieu de nulle part, que ce soit en Chine, que ce soit en Polynésie, voilà. Et donc là, c'est un témoignage. Moi, je me souviens, avec beaucoup d'émotion, l'année où j'avais présenté les instruments cambodgiens qui avaient été abandonnés donc à Marseille après l'exposition de 1920, c'est un colonial, 22, la fameuse exposition coloniale, avec la grande affiche de Dalkian. Et finalement, les Cambodgiens sont arrivés là, bon, ils ont regardé, c'était tout content. J'ai dit non, on va rentrer en temps, donc on est rentré, c'était Château de la Touraine, on a fait sonner, et bon, et leur village sont illuminés, et j'ai dit ah, mais ça c'est l'ancienne gamme, on fait plus ça. Et comme nous avons les Occidentaux, cette manie d'humiliser, de conserver, etc., d'arrêter sur l'image à tout moment, eux ont continué la révolution, puisqu'ils sont démontés de la politique. En fait, finalement, ils ont fait des relevés sur ces instruments-là, puisque ces instruments-là n'ont plus joué pratiquement depuis 1922, et ils ont eu la chance de récupérer tous les mots canteurs dans la revue culturelle, et c'est très intéressant de voir que finalement, on a besoin quelque part de cette mémoire. De caractère universel, on a pareil pour les chants d'Ouzbékistan, hein, pour pouvoir sortir parce qu'il nous donne ça du chanteur, le chanteur c'est 1960, donc c'est pas mieux, finalement par rapport à nous, les chanteurs, ils sont 1880, hein, les premiers chanteurs, les premiers enregistrements,